Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles en Matthieu chapitre 8. C'est ce matin, ça va être pas une série, hein, c'est juste une prédication simple, mais vous savez, parfois on a besoin d'être rappelé des petits principes tout simples de la parole et elles sont suffisantes pour nous encourager, pour nous reprendre parfois aussi. Donc Matthieu chapitre 8, et nous allons lire les versets 23 à 27. Matthieu chapitre 8 et les versets 23 à 27. Et donc le titre de notre réflexion ce matin, c'est « Quand la peur n'a pas lieu d'être ». Quand la peur n'a pas lieu d'être. Et le moment où on ne devrait pas avoir peur. Bon. Si on en parle, c'est parce que des fois, elle est là quand même. Et donc ici, vous allez voir que les disciples vont avoir peur. Matthieu, chapitre 8, et verset 23, il dit, « Il monta, parlant de Jésus, dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva et menaça le vent, les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alors nous pourrions nous aborder ce passage de différents angles. On pourrait voir la puissance de Jésus-Christ, sa personne. On pourrait voir son incarnation, hein, alors qu'il est Dieu, tout ça, il est le voilà assoupi. On pourrait le voir la puissance de sa parole. Mais ce que ce matin nous faisons un peu voir les disciples et ce que Jésus pense des disciples et de leur comportement. Ce qu'il dit à ses disciples, c'est « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Pourquoi avez-vous peur ? S'il le dit, c'est que normalement, ils n'auraient pas dû avoir peur. Mais lorsque nous nous arrêtons et lorsque nous lisons l'histoire et puis nous essayons d'imaginer un peu les circonstances, on se dit, mais je comprends qu'ils avaient peur. Vous savez, le mot peur, bien sûr, la langue originale du Nouveau Testament, c'est le grec. Et donc, on fait constamment référence au grec pour avoir une idée du sens. Et le mot peur, le plus souvent... Le mot, c'est le mot phobos qui est traduit, ou en français où nous trouvons le mot phobie, hein, et toutes sortes de phobies qu'on peut avoir, et c'est l'origine du mot peur, cette peur qui est dérangeante. Hein, et le plus souvent, dans le Nouveau Testament, c'est ce mot-là qu'on trouve. Cette peur qui, parfois, bien, nous sauve, hein, parce qu'elle nous empêche d'embarquer sur... Une folle aventure. Hein, parfois, heureusement qu'on a peur. Ben, ça nous empêche de partir nous lancer dans quelque chose qui aurait pu très mal tourner. La peur nous rend service, c'est pas un mal. Et parfois aussi, elle nous protège d'un projet dangereux. Hein, où quelqu'un vous propose quelque chose, un montage, quelque chose financier... Puis voilà, vous achetez, voilà, puis eux, dans leur présentation, ça a l'air tout à fait possible. Mais il y a quelque chose en vous qui dit, ah, j'ai peur. Et vous hésitez, peut-être vous décidez même de ne pas y aller. Et puis un peu plus tard, vous dites, oh, heureusement que j'ai pas été. Mais en fait, tout ce qui m'a empêché d'y aller, c'était un peu la peur. Et donc ça peut rendre service, la peur. Alors, à d'autres moments, eh bien, parfois la peur nous empêche de suivre la voie qu'on devrait suivre. quelque part, on manque d'assurance, on n'est pas, et puis on hésite et tout ça, puis finalement, on n'y va pas. Et là, ça ne nous rend pas service. Et puis, finalement, on prend une autre voie, peut-être qui nous paraît plus simple, plus naturelle, ou parce qu'il y a plus de monde, ou parce que c'est plus à la mode, et on prend cette autre voie, et puis finalement, ce n'est pas pour notre bien. On choisit de... Alors qu'on sait où est la vérité, et puis on choisit de prendre celle où il y a le plus de monde. Parce que on peut avoir peur de ce qu'en dira-t-on. On peut avoir peur d'être se retrouver tout seul. On a peur de ne pas être comme les autres, de ne pas être accepté. On a peur que les gens pensent de nous et disent « mais celui-là, il est un peu bizarre ». Et parfois, cette peur-là nous empêche de faire ce qu'on sait être la bonne voie. Parfois, nous avons honte de la manière dont nous nous sommes comportés dans cette situation où la peur a pris contrôle de notre personne, de notre raisonnement. Et on a honte de ce que... Et la peur est là. Parfois, certains sont plus enclins à la peur que d'autres. Mais il y en a qui font semblant de ne pas avoir peur, mais au-dedans, ils tremblent tout autant. Hein. Donc la peur, elle est là chez chacun d'entre nous. Et quand c'est les autres qui ont peur, on fait l'effort. Et puis après, quand ça nous arrive, on essaie de disparaître. C'est quelque chose que l'être humain n'aime pas. Il n'aime pas, il n'est pas à l'aise dans cette situation de peur et c'est inconfortable et on veut la faire passer, on essaye de... La peur est désagréable pour l'être humain. Mais on est tous confrontés à cela. Parfois, c'est nous qui nous sommes mis dans une situation, parfois elle nous est imposée, parfois c'est le parcours qui nous fait passer par là. On va parler de cette peur qui nous a fait hésiter. Et puis, finalement, ça a été salutaire. Et parfois, on regarde en arrière, on dit « Oh, heureusement que je ne m'ai pas suivi, je ne me suis pas laissé influencer, parce que maintenant, quand j'y pense, où est-ce que j'aurais été ?» Hein, on pense à ces tentations de la jeunesse, de l'adolescence, et quand toutes sortes de choses sont proposées... Et parfois, c'est la simple chose, c'est la peur de devoir rendre des comptes à papa qui nous a empêchés de le faire. Hein. On a envie, mais cette peur de devoir rendre des comptes à la maison. Et puis finalement, on dit « heureusement ». Il y a toutes sortes de situations, et puis je laisse partir votre imagination. Mais la peur de l'exclusion ou la peur de la critique oblige parfois à faire des choix ou d'hésiter au détriment de notre futur, mais parfois. La peur doit être là pour notre bien. Elle est là pour notre bien. Le Seigneur l'a prévu. Hein, nous sommes des êtres qui peuvent avoir peur. Déjà, c'est dans le monde animal, avec le côté animal, la peur, c'est leur sécurité. Et nous avons une dimension animale aussi, hein, qui nous fait hésiter. Puis après, il y a en plus... Il y a cette conscience de l'avenir que l'animal n'a pas peut-être, cette conscience de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et nous l'avons, et il y a ce niveau-là, on peut avoir des peurs, et on a besoin d'être rassuré. Tout à l'heure, le frère nous parlait de cette assurance du salut. Parce que l'inconnu de l'éternité, enfin, fait peur. Et on essaye de ne pas y penser. Mais l'inconnu fait peur. Mais alors que nous, quand nous avons rencontrons Jésus-Christ et nous avons cette assurance, eh bien, cette peur-là disparaît. Parfois, la peur chez nous peut être exploitée par les autres. Ils exploitent la peur qui est chez nous pour nous faire ou nous conduire ou nous mener. Et il y a des sociétés entières qui sont dominées par la peur. Mais nous avons ici un passage, et il y a une situation où les disciples ont peur. Et on pourrait comprendre, imaginez que vous soyez au large, dans un lac, il y a une tempête, il y a des vagues, et chaque vague qui s'amène met encore de l'eau dans votre barque, la barque est pleine. Et après on me dit, mais pourquoi tu as peur? Moi, ça, à leur place, j'aurais peur aussi, hein, surtout si je ne sais pas nager. Et il y a la peur, et puis si cette peur prend vraiment le dessus, ça devient de la panique, et on sait, nous, en tant qu'être humain, que quand la panique s'enclenche, après, la raison n'est plus là pour nous diriger, et on peut faire n'importe quoi. Et alors, on dit, mais Seigneur, tu es un peu dur là. Tu dis, pourquoi est-ce que vous avez peur? Mais, si c'est le Seigneur qui dit, pourquoi avez-vous peur? Et dit, et Jean de peu de foi, c'est que normalement, ils n'auraient pas dû avoir peur. Nous, de notre angle, et lorsqu'on se met à leur place, on se dit, ah ben, je comprends qu'ils avaient peur. Mais Jésus, de sa perspective, du fait que qu'il soit là, et eh bien il dit, pourquoi avez-vous peur? Et alors, dans l'esprit du Seigneur, eh bien, il y a des situations où on ne devrait pas avoir peur. Ni si nous sommes à Jésus-Christ, nous avons confié notre vie au Seigneur, eh bien, il y a des circonstances où on ne devrait pas avoir peur. La peur que nous voyons chez les disciples, elle ne provient pas seulement du fait que les éléments sont déchaînés, le vent, l'eau, la profondeur de la mer, et donc elle paraît toujours plus profonde dans ces genres de circonstances. Et puis en plus, c'était la nuit. Mais aussi, n'oublions pas, c'est qu'ils voient Jésus en train de dormir. Ça, Jésus dort, et dort profondément. Il y a de l'eau qui arrive, lui il est au fond là, il y a de l'eau dessus, il est tellement épuisé, il dort. Il y a de quoi se demander, hein, je dis. Et la situation s'empire, et lui, il ne fait rien. Il ne bouge pas. Et peut-être que lorsque vous regardez en arrière dans votre expérience, vous voyez des situations où les choses allaient mal, mais en plus, vous avez le sentiment que Dieu, il ne fait même pas attention. Il ne dit rien, il ne fait rien, il ne bouge pas, rien n'arrive et les choses continuent à s'empirer. Et peut-être que nous les avons. Et en tant que chrétiens, ces situations peuvent arriver, elles arriveront. Et finalement, les disciples arrivent au point où ils vont les réveiller. Et lorsque nous lisons le passage qui correspond dans l'évangile de Marc, et chapitre 5, Marc chapitre 4, je veux dire, eh bien, les disciples, quand ils le réveillent avec un reproche. Il dit, Marc 5, 4, 38, il lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Tu restes là, indifférent. Peut-être que toi, tu risques pas de couler parce que tu es le Fils de Dieu, mais nous, hein, tu t'occupes pas de nous. Et qui n'a pas eu les pensées parfois dans des circonstances particulières? Soit parce qu'on se trouvait devant une personne et la maladie, ou à cause de notre enfant, ou à cause de notre emploi, à cause d'autres choses, ou peut-être par rapport à la situation dans notre pays, la sécurité. Et on est là, on dit, mais Dieu, tu fais rien. Et dans un sens, la prière, et c'est normal de prier, mais la prière est un reproche. Matthieu dit, ils ont ajouté aussi, pourquoi, c'est-à-dire, il dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Ils sont là. Combien de fois est-ce que nous avons pensé, même s'ils ne l'ont pas dit à haute voix, « Dieu, comment peux-tu être si indifférent à ce qu'il m'arrive ? Tu fais rien. » Et puis après, ça fait encore plus mal quand on voit que même les frères et sœurs ne bougent pas. Et alors là, vous savez, ça, et quand c'est, ça marque, hein, surtout si on ne voit pas, intervenir par la suite. C'était un peu le sentiment de Marthe, vous vous souvenez ? Quand Marthe avait envoyé quelqu'un à Jésus, ça a pris 2 jours pour y aller, il envoyait quelqu'un pour dire, mais Lazare, celui que tu aimes, est très malade. Viens vite. Et puis elle, dans son calcul, bon, ça a pris 2 jours pour aller jusqu'à lui, 2 jours pour revenir, donc elle dit, bon, on attend, on patiente 2 jours. Mais au bout de 2 jours, il n'y a pas Jésus. Et lui, il a attendu encore 2 jours supplémentaires, donc il arrive avec 2 jours de retard. Et Lazare est mort, il est enterré, et Jésus arrive. Et elle va, et elle dit, et on aurait dit peut-être la même chose, « Jésus, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Comment tu n'as rien fait ?» Et si elle avait eu un peu de foi, elle aurait dit, mais pourquoi tu n'as pas dit quelque chose depuis là-bas? Il aurait pu être guéri. Et on est là, perplexe, dans ces situations. Jésus n'a pas dit, Marthe, écoute, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu tracasses? Pourquoi tu ne dormais pas tranquillement? Allons, mais... Et lui dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, normalement, tu n'avais pas à te soucier. Mais Jésus est là. Et on a même une situation dans Matthieu 15, où Jésus est là dans le nord, en territoire cananéen, et il y a une femme cananéenne qui arrive et qui dit... Aie pitié, Seigneur, aie pitié de nous, ma fille. Interviens. Et il nous dit dans le verset 23 de Matthieu 15, dit, Jésus ne lui répondit pas un mot. Oh là, ça c'est pas le Jésus que je connais, c'est pas le Jésus, il bouge pas, il dit rien. Il laisse les choses pourrir et quelles n'ont pas été nos pensées. Et les disciples ont eu largement le temps dans cette barque de penser toutes sortes de choses sur Jésus en le regardant dormir, peut-être même ronfler. Et vous savez, et Jésus, et alors on pense à tout cela, on se met à leur place. On les excuse, on pourrait même les justifier, vu de notre angle. Mais Jésus, de son côté, dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Là, certainement que les disciples ont attendu jusqu'à la dernière minute, hein. Le niveau de l'eau à l'extérieur de la barque, c'est le même niveau qu'à l'intérieur. On ne peut plus attendre. On le secoue, on le réveille. Et il dit, alors, quoi? Mais vous avez peur de quoi? Vous savez, je ne sais pas, même moi, pourtant je n'ai jamais peur. Et eh bien, j'aurais été étonné. Jésus leur dit, il répond à leurs reproches. Eux, ils ont dit, mais tu t'occupes pas de nous. Et lui, il répond à leurs reproches en leur reprochant de ne pas avoir de foi. Les disciples font ce qui est naturel. Jésus fait ce qui est juste. Et là, on se trouve dans cette situation où, et bien on dit, mais et qu'est-ce que je dois faire là-dedans, moi, si je me trouve dans cette situation? Comment faire? Et justement, c'est pour ça qu'on a pris ce passage ce matin. Parce que ça nous arrive, ça nous arrivera, et peut-être ça nous attend sous peu. Eh bien, la première chose à remarquer, c'est que le mot peur ici n'est pas le mot phobos. Ce n'est pas cette peur-là, que j'ai peur des araignées, ou j'ai peur de me tromper, ou j'ai peur de ce que l'on va dire. Ce n'est pas ce mot phobos qui est là. C'est carrément un autre mot. C'est un mot qui est utilisé seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Il est utilisé dans Marc chapitre 4, où il fait référence au même sujet, hein, donc c'est Jésus qui dit la même chose, et c'est un mot qu'on retrouve dans l'Apocalypse, et qui est traduit, n'est pas traduit par peur. Regardez avec moi, Apocalypse 21, et au verset 8. Apocalypse 21, et au verset 8, et vous allez chercher là-dedans, et vous allez me dire, mais je ne le vois pas. Je vais lire. Je vais lire le verset 7 déjà pour un peu se mettre dans le contexte. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu. L'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Dites, mais où est le mot peur là-dedans? C'est les lâches. C'est traduit par lâche et ça a ce sens-là. Vous savez, celui qui a, quand il doit confronter, doit faire quelque chose, vous comptez sur lui, et puis lui, il vous lâche. C'est un peu celui qui manque de courage, celui qui recule devant le danger. Et Jésus dit, pourquoi avez-vous été lâche par rapport à moi, gens de peu de foi? Donc, avoir peur, et Jésus n'a jamais dit parce qu'ils avaient peur de quelque chose, mais dans ce cas-là, il a dit, là, vous avez été lâche. Et alors, je me pose la question, j'ai mis, et moi, à quel moment est-ce que ma peur devient de la lâcheté dans l'esprit du Seigneur? Et c'est quelque chose qui n'aurait pas eu lieu s'il y avait eu la foi telle que je devrais l'avoir. Ben, là, au début du chapitre 8 de Matthieu, hein, on avait déjà vu la puissance de Jésus, parce qu'il y a le centenier dont le serviteur est malade, et le centenier dit à Jésus, écoute, c'est pas la peine que tu viennes jusqu'à la maison, toi, dis un mot et puis il sera guéri. Et Jésus dit le mot, et il est guéri. Et voilà. Ils avaient vu la démonstration de la puissance de la parole de Jésus. Ils avaient fréquenté Jésus, ils avaient marché avec lui, ils avaient vu beaucoup de choses. Mais il a suffi que les circonstances les touchent eux directement, tout d'un coup, et ils sont comme des incroyants. Vous savez, parfois, nous, combien de fois, oui Seigneur, je crois, oui Seigneur, ceci, oui je crois en ta parole, alléluia, et puis on chante des versets, et puis on peut dire, et même on dit aux autres, et fais confiance au Seigneur, et puis tout d'un coup, nous-mêmes, on se trouve dans la circonstance, oup, la foi disparaît. Jésus dit, ah, c'est lâche. Hein? Tu sais, tu as toutes les raisons pour l'affirmer, mais quand c'est toi et ça te touche toi, tout d'un coup, oup, là, il n'y a plus rien. Tu es comme si Jésus n'était pas présent. Et pour toi, parce qu'il dort, il a l'air de dormir en tous les cas, il n'est pas présent. et parfois les enfants de Dieu, eh bien, alors qu'ils ont déclaré croire que Jésus-Christ est présent, est toujours présent, il est toujours avec nous, et il est fidèle, et il est puissant, et il peut intervenir, et tout ça, et puis tout d'un coup, on se trouve dans une situation, on réagit, on se comporte comme s'il n'existait pas. Et on se comporte exactement comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et s'il fallait nous comparer, c'est exactement le même scénario, ça se passe de la même manière, on dit les mêmes choses, et on se comporte de la même manière, on tremble pareil, et on panique pareil, et tout. Il dit, mais ça ne va pas. Ça, ce n'est pas de la peur, ça c'est de la lâcheté. Et c'est un manque de foi. Jésus-Christ était présent, même à eux, à leur époque, ce n'était pas seulement qu'il était spirituellement, il était physiquement présent. Il était là. Peut-être qu'on a, on a le sentiment qu'il est dans un état faible, et parce qu'il était dans un corps, et parce qu'il était en plus, il était endormi. Et donc on dit, mais bon, cette faiblesse-là, je ne sais pas s'il peut intervenir. Oh, sachez que Jésus-Christ, dans son état le plus faible sur la croix, il a écrasé la tête du serpent. Maintenant qu'il est dans la gloire, on n'a absolument rien à craindre. Dans son état le plus faible, il était plus fort que notre ennemi. Et maintenant, il est ressuscité, il est dans la gloire, il n'est pas limité par un corps humain, et nous n'avons rien à craindre. Mais il est présent. Et pourtant, tout ce qu'ils ont à dire à Jésus, c'est « Seigneur, sauve, nous périssons. On va couler, toi avec nous. » Et après, peut-être qu'ils pensaient plus à eux-mêmes qu'à lui. Et les disciples, face au risque de chavirer, réveillent le Seigneur en lui exprimant ce reproche. Mais Jésus répond « Pourquoi avez-vous cette peur qui vous fait paniquer et vous vous comportez comme des non-croyants ? N'est-ce pas Jésus, au début du chapitre, n'est-ce pas Jésus qui avait donné l'ordre de monter dans la barque? On le voit dans, surtout dans Marc chapitre 34, verset 35. C'est lui qui avait donné l'ordre de monter dans la barque. Et s'il a dit de monter dans la barque, et puis il a dit on va traverser, ben quand il le dit, ça, on va y aller. Hein. Peu importe ce qui arrive, on va y arriver. Et dans tout son ministère, tout ce qu'il a voulu faire, était réalisé. Même lorsqu'il était sur la croix, dans l'état où il semblait être vaincu, eh bien, il a dit, tout est accompli. Ça se passe comme prévu. Ses disciples oublient carrément que c'est Jésus qui a dit d'y aller. Et quand il envoie, il accompagne. Ils avaient oublié que Jésus était là. Ils avaient tout ce qu'ils avaient pu apprendre. Et ça faisait déjà un an qu'ils étaient, ils suivaient le Seigneur. Ça faisait un an qu'ils... Mais là, tout, devant les circonstances, tout est parti. Et pour Jésus, il dit, ben écoute, ça c'est un peu lâche. Bon, heureusement qu'il nous pardonne, il persévère. Hein, combien de fois, et puis finalement, si, personnellement, si je regarde en arrière... Ben, je peux voir des moments où j'étais un peu lâche aussi, où j'ai manqué de foi alors que j'aurais dû en avoir, où j'ai paniqué, où j'ai peut-être dit des choses, même au Seigneur, qui n'était pas nécessaire de dire. Mais heureusement que lui, il nous pardonne, mais il nous reprend, il nous dit, mais tu sais, ça n'aurait pas dû être et ce n'était pas nécessaire. Et ce que tu as vécu là, et ce que ça, l'effet que ça a eu sur toi, et puis ce que ça t'a coûté, parce que des fois, hein, quand on prend les choses entre nos mains dans la panique, Il dit ce que ça t'a coûté, ce que ça, l'effet que ça a eu, ça décourageait des autres et tout ça. Tout ça, ben, voilà, c'était de la perte parce que ce n'était pas nécessaire. Combien de fois est-ce que nous nous sommes comportés comme des orphelins de Dieu ou des sans-Dieu? Et peut-être qu'il nous a dit, ou il aurait pu nous dire, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et ça, je dois admettre que moi aussi, il y a eu des circonstances où il me l'aurait dit et où par la suite je l'ai compris. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi m'avez-vous lâché? Pourquoi ne m'avez-vous pas fait confiance? Et une fois que tout était arrangé, eh bien, on va dire, ah, pourquoi je n'ai pas fait confiance? Vous savez, Marthe, tout à l'heure, on a parlé de Marthe. Marthe, début de la journée, Jésus arrive, ah, Seigneur, tu as vu, ça fait 2 jours de retard, si tu étais venu, crie, il n'est pas mort. Mais vous savez, à la fin de la journée, elle ne pensait plus comme ça. Hein? À la fin de la journée, elle est là, assise avec Lazare en face d'elle, et puis elle voit tout ce monde qui croit, et Dieu a dit, et là, et puis spirituellement, elle a fait un bond. Et finalement, la journée s'est bien terminée. Oh Seigneur, excuse-moi, hein, moi je me suis laissé emporter, j'ai dit n'importe quoi. Et vous savez combien de fois ça nous arrive? Même la femme cananéenne de tout à l'heure, là, vous pouvez aller lire la suite. Mais à la fin, sa fille est délivrée. Et même Jésus dira de cette femme, il dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi pareille. Mais c'est parce qu'il s'est tu, parce qu'il dira même quelque chose de dur, du genre, tu sais, le pain des enfants, on ne le donne pas aux petits chiens. On dit, oh, c'est quand même pas gentil. Et oui, mais tout ça, ça fera ressortir. Et pendant deux millénaires maintenant, tout le monde entend, cette femme, elle avait une foi telle qu'on n'en a pas vue en Israël. Vous savez, le Seigneur, quand il a l'air d'être endormi, il n'est pas autant endormi qu'on le croit. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire une œuvre. Il est en train de nous éprouver pour faire ressortir. Pas tellement que lui, il a besoin de savoir ce qui est dans notre cœur, mais c'est pour nous que nous découvrions ce qu'il y a dans notre cœur ou ce qui manque dans notre cœur. Vous savez, Pierre, on sait tous, il était pêcheur de poissons sur le lac. Mais vous savez, ses meilleures pêches sont arrivées les jours où il venait de dire « il n'y a pas de poisson ». Et après, Jésus dit, jette le filet à droite. Il jette le filet. Il faut en appeler une autre barque. Il veut le filet, il est en train de craquer. Mais les meilleures pêches sont les jours où il a dit, il n'y a pas de poisson. Et même, vous savez, combien de fois est-ce que notre évaluation de la situation s'est révélée fausse? Parce qu'on a essayé de l'évaluer sans mettre Jésus dans l'équation. Et bien sûr, c'était tout faux. Pour les gens du monde, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas Jésus dans l'équation, donc eux, ils font comme ils peuvent. Et puis, ils ont les résultats qu'ils ont. Mais l'enfant de Dieu qui ne met pas Jésus dans l'équation, eh bien, il va arriver avec un résultat vraiment décourageant aussi, qui va provoquer un certain comportement. En fait, Jésus, un jour, il est là avec Pierre, tout au début du ministère, et il rencontre Pierre et se sert de la barque de Pierre pour prêcher à la foule. Puis ensuite, il dit, écartons-nous un peu de la plage, là. Et puis il dit, Pierre, jette le filet. Il dit, voilà, toute la nuit, on a jeté le filet, il n'y a rien aujourd'hui. Mais sur ta parole, je le ferai. Et il jette, il y a tellement de filet, ils ne peuvent plus le retirer, il appelle les autres pêcheurs, et dit venez, et puis ils remplissent les barques. Mais vous savez, après, à la fin de la journée, Pierre est allé, il s'est jeté à genoux devant le Seigneur et dit, Seigneur, éloigne-toi, je suis un homme pécheur. Oui, le Seigneur sait se servir de toutes ces circonstances, non pas pour nous humilier, mais pour nous révéler notre manque de foi. Jésus aurait pu traverser cette barque, il aurait pu faire que la barque, même sans ramer, elle traverse. Et que tout se passe bien. Mais les disciples n'auraient pas été aidés. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, jette les filets, eh bien, nous lisons dans Luc, c'est dans Luc chapitre 5, verset 8, il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et le passage se termine au verset 11, ça c'était le verset 8, le verset 11, ça termine, « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Ça, c'était, ça se passe l'an 26. Une année plus tard, eh bien, on est là dans Matthieu 8, l'an 27. Et on dit, mais où est le progrès? Pourtant, pendant une année, ils ont vu les miracles, ils ont entendu l'enseignement de Jésus, tout cela. Et eux, tant qu'ils sont Jésus devant, eux sont derrière, ils sont là, oui, mais c'est le Seigneur, ceci. Hein. Et oui, mais quand c'est eux qui se trouvent dans la tempête, hein, on se retrouve très petit. Vous savez, vous voulez évaluer, si on veut évaluer notre stature spirituelle, ce n'est pas le dimanche matin que tout est bien et puis qu'on est là en train. C'est la performance que j'ai eue, la dernière épreuve. Et là, je vais mesurer la foi que j'ai exercée dans cette dernière épreuve. Et si je l'ai exercé depuis le début, ou si c'est seulement à la fin, une fois que Jésus dit, mais alors, tu sais ce que tu dois faire, fais confiance. Oui, Seigneur, je vais essayer de faire confiance. Oui, et trop souvent, c'est comme ça. Hein. Il dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, et tu me lâches, juste quand tu en as besoin. Le Seigneur laisse parfois courir des situations. Pour nous, on dirait qu'il laisse pourrir les situations. Mais c'est pour nous tester. Mais trop souvent, nous avons répondu à ces reproches. Vous savez, cette expérience-là, Jésus, et ce que, quand vous lisez les textes et quand vous lisez Matthieu 8 et vous lisez le même passage dans Marc 4, l'ordre est différent. Entre, dans l'un, c'est pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, et ensuite, il donne l'ordre au vent et à la mer de se calmer. Et dans l'autre passage, l'ordre est inversé. On dit, est-ce qu'il leur fait la leçon alors que les vents soufflent encore et les vagues arrivent? Ou est-ce qu'il le fait après? Peu importe, le problème est le même. Mais ce que, vous savez que la dernière scène de cette histoire, vous avez 12 disciples qui ressemblent à des chatons qui ont été pris dans la pluie, trempés, sur un lac d'huile. Quand c'est terminé. Et puis ils ne sont pas fiers d'eux. Et vous savez, aussi, je me demande, si nous manquons de foi, et si nous n'apprenons pas à exercer la foi, à faire confiance au Seigneur, vous savez, on va avoir cette expérience trop souvent. Le Seigneur a dit, mais j'ai prévu tout était prévu, ça marche. Tu as paniqué, ça fait augmenter ton rythme cardiaque, ça fait tout ça. Mais finalement, c'était bon, hein, moi j'avais tout prévu. Mais tu n'as pas fait confiance. Oui, mais Seigneur, quand j'ai prié la première fois, tu n'as pas répondu. J'ai prié 10 fois, 100 fois et tu n'as rien dit. Il dit, mais je t'ai entendu toutes les fois. Et oui, mais tu n'as pas fait confiance, c'est tout. Les hommes disent à Dieu, pourquoi nous as-tu lâché quand nous avions besoin de toi? Et Dieu répond, pourquoi as-tu été lâche quand j'étais près de toi? Je vais vous lire ce songe, quelqu'un a composé ce songe, peut-être vous l'avez déjà lu, des pas sur le sable, et je lis. C'est un poème écrit par Mary Steele Stevenson. Il dit, une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne et l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté, j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé, Seigneur, tu m'as dit que tu étais près de moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime, je ne t'aurai jamais abandonné, pas même pour une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Prions. Peut-être avons-nous des choses à dire au Seigneur et nous allons prendre un moment de prière silencieuse et où chacun pourra dire, Seigneur, écoute, oui, j'ai pensé à un certain moment et je ne suis pas fier de la manière dont je me suis comporté. Oui, Seigneur, je suis trop comme les disciples et aide-moi à être vainqueur. Quelle que soit la prière, quelles que soient les pensées que vous avez eues, quelle que soit l'épreuve à laquelle vous pensez, peut-être vous êtes dedans. Que le Seigneur dirige et ensuite je prierai.